Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien donc sur Oblique, l'émission qui explore des univers cinématographiques décalés. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de chronique, donc bonjour, bonjour à tous les
Coucou.
Quatre.
Salut.
Bonjour.
Voilà, mais alors j'ai pas de chronique, mais je me permettrai de donner deux petites conseils en fin d'émission, des conseils cinématographiques, évidemment.
Nous les suivrons.
Donc Romain, je crois que toi tu poursuis ton exploration du groove au cinéma.
C'est ça, oui.
Voilà, donc toi, Yann, tu fais une petite infidélité à l'audioblique.
Eh oui, non sans tristesse, mais je reviendrai. Et il sera question d'un film polonais, Varsovie 83.
Et toi, Victor ?
Nous, on continue avec Philippe Fernandez, on parle de science et vie, de secte et de financement.
D'accord. Et là, je sens que tout le monde bouillonne d'impatience pour retrouver donc Justine avec l'agenda de la semaine.
Bonjour tout le monde. Alors bizarrement, plus les beaux jours reviennent, plus les événements se font rares, mais pas d'inquiétude, j'ai quand même réussi à vous trouver des sorties qui ne nécessitent pas de crème solaire. On commence avec le vendredi 20 mai à 18h30, le cinéma Utopia propose une séance unique du film La biographie inventée, réalisé par Nicolas Lasniba. La projection sera suivie d'une rencontre avec François-Henri Désérable, romancier, auteur de Mon maître et mon vainqueur, Grand Prix de l'Académie française 2021, et Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt 2021 pour La plus secrète mémoire des hommes. Samedi 21 mai à 15h30, la médiathèque Albert Camus projettera le film L'éveil de la permaculture, un film documentaire d'Adrien Bellet qui explore le mouvement de la permaculture en France. La projection a lieu dans le cadre de la programmation thématique de la médiathèque Cultiver son jardin. Le lundi 23 mai, le cinéma Diagonal organise à 20h15 une soirée projection-débat autour du film Un disparo en la noche 2. Alors désolé pour l'accent, je ne l'ai peut-être pas bien dit. D'Alejandro Diez. Dans le cadre du festival Tango Sud 2022, Solange Basli de l'association Sotango assurera la présentation du film et le débat après le film sur le retour de l'âge d'or du tango. Lundi 23 mai, c'est également le premier jour de l'événement Back to the 80s du Gaumont Multiplex. Du 23 au 29 mai, vous pourrez voir ou revoir des films emblématiques des années 80, comme par exemple Robocop le 24 mai à 20h, Scarface le 26 mai à 19h, mais également The Thing le 27 mai à 22h15. Vous trouverez le programme complet de l'événement sur la page Facebook du Gaumont Multiplex à Montpellier. Et enfin, jeudi 26 mai à 19h30, les Altropismes vous donnent rendez-vous pour assister à une soirée unique en avant-première dans laquelle Malotto, le diaporanoïaque, réglera son compte à son pâle auteur, Éric Lalia, tout en lui dérobant ses deux muses en guise d'ascension. Il se mettra à nu dans une exposition de peinture et de photographie à partir de 19h30 et une projection du film découpée en quatre parties à partir de 20h30. La projection accueillera en parallèle l'exposition des œuvres des peintres et des photographes ayant participé à cette aventure commune. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Justine. Et tout de suite, je laisse la parole à Yann pour nous parler de Varsovie 83, une affaire d'État.
Wydaje mi się, że mamy drobny kłopot natury wizerunkowej związany ze sprawą niejakiego Grzegorza Przemyka.
Towarzysze, pozwolę sobie zaznaczyć, że mój resort jest niewinny.
Jest świadek.
Jerzy Popiel jest jedyną przeszkodą stojącą nam na drodze do uczciwego i rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy.
Jurek, musisz się ukryć.
Vous avez tous compris, mais je vous raconte un peu quand même. Varsovie, 1983. Une réunion d'amis dans l'appartement de Barbara Sadowska, poétesse engagée dans le mouvement Solidarnosc, et de son fils Grégor, jeune étudiant hein, sur le point de passer son bac. S'y trouve aussi son ami Jurek, qui décide au dernier instant de rester, participer à la soirée au lieu de repartir chez ses parents. Un plan séquence d'ouverture dans les pièces de l'appartement qui suit de près Jurek, protagoniste principal. C'est le signe inaugural qu'on ne va pas lâcher ce personnage et qui installe d'entrée un climat de tension. Les deux jeunes amis, Grégor et Jurek, descendent au centre-ville. Ils sont interpellés par la milice de sécurité civile. Papier d'identité demandé, ce que refuse Grégor, arguant que la milice n'est alors pas en droit d'exiger une telle chose, suit un embarquement musclé au poste de police et là-bas, tabassage extrême de Grégor sous les yeux d'Jurek par la bande de miliciens. Scène brutale, hein, premier aboutissement de la tension installée au début du film. Un gradé est témoin de la scène, mais laisse faire et recommande juste à ses sbires de frapper comme il faut le jeune étudiant pour pas laisser de traces. Et l'étudiant donc en sort dans un état léthargique extrême, paralysé de douleur. Il évite un internement psychiatrique grâce à sa mère qui met en avant le caractère illégal d'un tel internement forcé qui est quand même proposé par un médecin. Retour dans son appartement, puis dès le lendemain, passage aux urgences. Et vu la gravité de son état, l'issue sera fatale. Trop d'organes vitaux ont été traumatisés. Et c'est alors que commence le combat de Barbara et de Jurek afin que les coupables de ce meurtre identifié par Jurek, qui est le seul témoin en dehors des membres de la milice, soient désignés et punis par la loi. Le contexte de cette tragédie, le soutien populaire accordé aux victimes et la diffusion non sans difficulté initiale de l'information dans les médias internationaux, la BBC, vont donner à ce sordide événement, malgré toutes les tentatives de camouflage et de déformation par le pouvoir polonais, la stature d'une véritable affaire d'État. Varsovie 83, une affaire d'État, c'est ainsi qu'on peut résumer sans divulgâcher, parce que c'est que les 20 premières minutes du film. C'est le troisième long métrage du cinéaste polonais Jan Matuszynski, après The Last Family, une fiction en 2016, et Deep Love, qui était un documentaire en 2013. Il y a aussi divers épisodes de séries et des courts-métrages. Sur un scénario original de Kaja Krasik-Wnuk, je m'en sors pas mal pour du polonais, et aussi d'un reportage en fait, de Cezary Lazarewicz. Il s'agit de la reconstitution d'un fait réel marquant survenu dans la Varsovie de l'époque. Le mouvement Solidarnosc a à cette époque quelques 3 ans d'existence et participe déjà à une certaine émancipation des consciences et des actions pour les libertés civiques. Mais l'État polonais est toujours très solidement muselé par un rideau de fer hermétique, une administration militaro-bureaucratique menée par le général Jaruzelski, alors président non pas de la République dite populaire communiste, il le sera, mais plus tard, en 1985, mais il est alors président du Conseil des ministres. Et il y a d'ailleurs une scène remarquable dans le film qui illustre ce conseil présidé par un Jaruzelski hiératique, dictant sous ses lunettes noires impénétrables ses ordres de manière hachée, lapidaire et glaçante.
W korytarzu upadł, od razu oni podnieśli go dalej, go bili.
Czy możliwe, żeby te obrażenia powstały wcześniej? Od upadku, przypadkowego ciosu?
Pamiętasz, Michał, na co się umawialiśmy? Znasz scenariusz? Nie zepsuj tego tym razem.
Pendant 2h40, durée amplement justifiée par les choix du cinéaste, nous allons suivre le parcours éprouvant de personnages dessinés avec finesse, sans recours à un pathos excessif, sans complaisance aussi dans la confrontation qui existe entre les bourreaux et les victimes, malgré la tragédie quand même de la situation, et sans non plus effectuer une reconstitution un peu exhaustive, un peu laborieuse d'une affaire à grand recours de documents révélés par des astuces scénaristiques, toutes les petits hiatus du film un peu dossier, quoi. Le cinéaste Matuszynski choisit une voie médiane entre la force de la sobriété du documentaire, il en a une pratique expérimentée, et la construction empathique de personnages caractéristiques de la fiction, avec des habiletés de scénario qui servent les effets de suspense efficaces, notamment dans l'épisode un peu prolongé de la traque de l'unique témoin du crime, de Jurek, par l'appareil répressif de l'État polonais. Le portrait réaliste d'une Pologne passée est une contrainte imposée par l'argument historique du film. Mais dès les premières scènes qui plantent le décor, on oublie très vite ce décor. On s'amuse un petit peu des voitures qu'il y a à l'époque, et voilà, puis c'est réglé, 5 minutes, et on pense plus à ça. C'est relégué à ce que ça doit être, c'est-à-dire juste un décor. Il n'agit pas comme une succession de détails un peu kitsch qui neutraliserait le propos et qui l'enfoncerait dans un autrefois folklorique. Ce propos, adroitement servi par une mise en scène inconfortable qui alterne entre des plans séquences d'immersion dans les moments tumultueux comme le départ et puis des découpages plus froids de type champ contre champ dans des confrontations de nature plus administrative. Une alternance en fait, qui dynamise complètement les options de mise en scène. Hein. Et bien, ce propos, il est éternel, c'est en quelque sorte le combat de David contre Goliath, celui d'individus, une humanité, mue par des convictions, des espoirs, des désespoirs, face à une machine impassible, étatique, liberticide et totalitaire, qui sert implacablement les intérêts de son oligarchie, pétrifiée de foi en son mythe d'invincibilité, d'imperméabilité aux erreurs, qu'elle ne cesse pourtant de commettre hein, tout au long du film, comme en témoignent plusieurs scènes de Varsovie 83, non sans un certain humour, il faut quand même le signaler, c'est assez bienvenu dans un film quand même un peu pesant, un goût de l'absurde et du grotesque, peut-être hérité d'autres grands raconteurs d'histoire des pays de l'Est, de l'ancien bloc soviétique, on peut penser en littérature à des Milan Kundera ou Witold Gombrowicz. Nul doute que le cinéaste n'a pas uniquement le projet de rappeler de sinistres heures hein, du régime stalinien, mais il pense également à l'actualité de son pays, dont le gouvernement, depuis 6 ans, est dirigé par le parti Droit et Justice, un parti très conservateur, très nationaliste, situé très très à droite de l'échiquier politique. La tentative des émissaires du pouvoir étatique dans la fiction-réalité, hein, la tentative de rejeter la responsabilité du crime sur des prétendues moralités douteuses de la victime, de sa mère, de son, du passé de ses personnages, et de son ami aussi, sur une soi-disant homosexualité d'Urek, agit comme un écho inversé de l'inquiétante répression sociétale conduite par le gouvernement actuel en Pologne et qui s'est distinguée notamment par la quasi-interdiction de l'avortement actuellement. Varsovie 83 sert donc autant de réactivateur de mémoire que de signal d'alarme sur une actualité qui n'en a jamais fini avec cet tartuffe liberticide. Il a ce mérite hein, de rappeler que si d'une part la réalité est toujours une justification motrice de la construction de la fiction, quel que soit le degré de fidélité de cette fiction, celle-ci est d'autre part l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur terrain, d'incarnation et d'expérimentation du réel. Le choix de la représentation, celle du cinéma, en l'occurrence, impose l'exercice d'une forme, la mise en scène, et donc impose des choix de point de vue dont les atours esthétiques ne sont jamais dans ce cas de figure aussi pertinents que lorsqu'ils donnent pleine puissance aux voix témoins de ce réel. Voilà, ça c'était un extrait de la bande-son originale. Hein. Je tenais à en passer un petit bout parce qu'il ne faut surtout pas se fier aux effets catastrophiques de la bande-annonce, comme souvent dans ce genre de bande-annonce, avec un grand renfort de coups sourds, enfin bref, comme elles sont toutes faites. Et donc la bande-annonce, la bande-son, pardon, elle est assez remarquable par cette atmosphère un peu minimaliste, un petit peu trouble. Elle est signée à un trompettiste français, très reconnu, c'est Ibrahim Malouf. Et bon, ça c'est que mon avis, mais en général, je le trouve beaucoup moins inspiré dans ses albums habituels. Voilà, c'était donc Varsovie 83, une affaire d'État, un film de Jan Matuszynski au cinéma Diagonal depuis le 11 mai, puis c'est encore, vous pouvez y aller jusqu'au 31 mai.
Merci Yann. Donc, on poursuit donc l'émission avec la deuxième partie de l'interview de Philippe Hernandez.
Fernandez. Donc réalisateur, pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine dernière, de deux longs métrages, Léger tremblement du paysage et Cosmodrama. Dans la première partie de l'entretien, on avait discuté un petit peu du fait que c'était pas tant la science-fiction qui a inspiré son cinéma, puisque le Cosmodrama est un film de science-fiction, que la lecture de revues de vulgarisation scientifique et puis tout ce que ça peut ouvrir en termes d'imaginaire comme idée. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, le cinéaste va nous parler du futur, ou plutôt du futur de sa carrière, une carrière la suite qu'on attend avec impatience, hein, et donc il nous en offre ici les prémices.
Juste avant la sortie de Cosmodrama, j'ai écrit autre chose. Pendant cette année-là, j'ai profité de cette année-là pour écrire donc, ce qui serait un peu la suite. Donc moi, je dis que je fais de la SF, mais c'est une suite philosophique. C'est un film qui s'inspire d'une histoire réelle, pour le coup. En exergue du film, j'ai trouvé une chose formidable, je vais vous le dire. Alors, si je m'en rappelle, parce que c'est un peu compliqué. C'est une fiction basée sur une histoire réelle, mais l'inverse est vrai aussi. Ça, c'est le carton d'introduction du film. L'idée, tout ça pour dire qu'il y a un type génial, il y a un mystificateur qui a créé une fiction, mais qui a marché dans la réalité. Cette fiction, c'est l'affaire Humo. Il a inventé des humites, des extraterrestres qui ont envoyé sur Terre une petite délégation, donc dans les années 60, pour faire en sorte que les humains fassent un peu plus attention à leur planète, parce que l'idéologie n'est pas unifiée, donc il y a des guerres partout, parce que les ressources sont utilisées n'importe comment et que tout ça s'épuise, et que l'écologie, que la pollution crée des problèmes écologiques énormes. Et ça. Tout ça, donc, c'est écrit au milieu des années 60. C'est quand même assez fou. C'est-à-dire que les premières lettres de ces extraterrestres qu'ils envoient à des journalistes et à des penseurs et à des scientifiques sont écrites donc en 65. Donc cette histoire, je la trouve assez passionnante. Elle a duré, donc cette mystification, ce mystificateur, José Luis Juan Pena, donc espagnol, a créé donc ces lettres pendant plus de 25 ans. Et moi, j'ai vu des émissions dans les années 90 à la télévision française, des émissions grand public, avec des gens comme De Chavannes ou des animateurs très très connus. Les humites existent-ils? À 20h30, des émissions de grande écoute, on débat là-dessus avec des auteurs français, des écrivains, plus ou moins dans la fiction aussi, un scientifique français, Jean-Pierre Petit, très très décrié bien sûr dans la science française. Mais donc il y a une espèce de mythe comme ça qui a perduré pendant un certain temps, du fait notamment que les lettres de ces extraterrestres étaient accompagnées de notions scientifiques qui dépassaient tout ce qui avait été publié à l'époque, notamment sur les univers jumeaux que Sakharov a publié après. Mais peut-être qu'il y aurait eu une fuite de ce côté-là, on ne sait pas, mais aussi des choses sur la biologie, sur l'évolution, des choses absolument passionnantes, qui expliquaient beaucoup de choses de l'univers qui étaient inexpliquées par les scientifiques à l'époque. Donc cette mystification a eu comme ça à intéresser un peu des gens. Après, il y a des détracteurs qui disent mais c'est le programme d'études scientifiques classiques d'astrophysique de licence, c'est pas non plus ça va pas non plus chercher si loin. Bon, en tout cas, ça a marché auprès d'un certain nombre de gens. Et donc moi, ce que je mets en scène dans ce film, c'est ça, c'est cette mystification, comment des gens ont pu y croire, comment des gens ont cherché à comment des journalistes scientifiques ont essayé de démêler le vrai du faux. Et donc tout ça m'intéresse, que dans la réalité normale, de gens rationnels, eh bien, des mystifications relatives à des extraterrestres puissent exister, et qu'on puisse en rêver, en fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est l'espèce d'utopie que portaient ces humites, d'un monde qui aurait réglé ses problèmes sur une planète où la pollution n'existerait plus, où les ressources seraient maîtrisées avec raison, où la raison pour une vie bonne partagée par tous serait effective. Et donc dire ça aujourd'hui, parler de cette histoire me semble assez important. Montrer que déjà au milieu des années 60, des gens pouvaient se servir des mythes extraterrestres. Ça, c'est dans la mythologie ufologique, c'est ça. On voit des ovnis parce que les extraterrestres viennent nous montrer qu'en fait, c'est pas très bon de faire des centrales nucléaires, de faire des stocks d'armes nucléaires, etc. Là où ça devient passionnant, c'est que des militaires voient effectivement des ovnis autour des stockages d'armes nucléaires, comme il y en a en Angleterre ou autre. Et donc ça devient passionnant, c'est-à-dire que la réalité devient elle-même une fiction. On ne sait plus du tout ce qu'il faut penser. Et là aussi, en tant que cinéaste et en tant que poète, je pourrais dire, ça m'arrange beaucoup qu'on ne sache pas ce qu'il en est réellement de ce qui se passe au-dessus des nuages. Et que ce soit si confus d'en parler. Voilà. Enfin, le film est basé là-dessus, et sans doute à cause de cette confusion qu'il génère dans l'esprit des lecteurs, pour l'instant, il est très difficile, très 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 difficile, de pouvoir le faire avancer. En gros, il n'y a pas de financement. Mais justement, moi j'ai une théorie dont je vais faire un livre, une théorie scientifico-esthétique, c'est le 1,5e degré. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. Et c'est ce qui est gênant pour les gens, c'est qu'ils ne savent pas si, je crois, dans les extraterrestres, si c'est la soupe que je veux vendre, ou si je suis distant et ironique. C'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je suis rien pour savoir si pour dire aux autres si les extraterrestres existent ou pas. Et je ne veux pas non plus m'en moquer, parce que c'est un sujet très intéressant, parce que les extraterrestres nous parlent de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'arrive pas à gérer notre planète. Et donc, imaginez nous voir comme ça d'un peu plus haut, comme nous verraient les extraterrestres, et nous contempler. Bon, en tout cas, le premier titre du film, c'était l'hypothèse de Kant. Pourquoi ? Parce que Kant a souvent convoqué les extraterrestres pour justement parler de nous-mêmes. C'est arrivé. Et donc j'ai lu un très très bon bouquin là-dessus qui s'appelle « Kant et les extraterrestres » de l'auteur dont là, à brûle pourpoint, je ne vais pas, j'ai oublié le nom, malheureusement. En tout cas, ce livre m'a beaucoup inspiré m'a conforté dans le fait que c'est un vrai sujet de méditation philosophique.
On espère que l'hypothèse de Kant, ou peu importe le titre définitif que le film portera, verra vite le jour, car à Oblique, il nous tarde de poser les yeux sur le prochain film de Philippe Fernandez. Et en attendant, si vous souhaitez les revoir, Léger Tremblement existe en DVD et en VOD, et Cosmodrama en VOD, uniquement sur la plateforme de la 25e heure, il me semble.
Merci Victor. Et maintenant, nous laissons la parole à Romain pour nous parler du groove au cinéma.
Bonjour, la semaine dernière je vous avais laissé avec le truc groovy de Greg, je sais pas si vous vous souvenez, truc un peu chaloupé, et là vous dites, diantre, quel rapport entre des scènes à caractère sexuel et des meurtres hideux ? Eh bien peut-être l'étalage de chair, mais voyageons dans le temps, oublions nos années 2000 et quelques, aseptisés à souhait où un réalisateur faiseur plaque à l'envi des musiques tirées d'autres films que les siens pour bien souligner ses influences, et où ces influences se retrouvent dans bon nombre de magazines, à tendance culturalo-chiante, afin que nombre de leurs lecteurs puissent se prévaloir d'une culture ou d'une sous-culture pour certains qu'ils n'ont pas et qu'au fond ils méprisent. Revenons donc dans les années 60, et dans une moindre mesure 70. Sans entonner le classique « c'était mieux avant », il convient de reconnaître que nous parlons ici d'une époque où tout, absolument tout, sortait au cinéma. De vrais compositeurs faisaient des musiques pour ces films, parfois au kilomètre, convenons-en, et les films en question coûtaient 3 francs 6 sous, étaient donc vite tournés, vite montés, vite rentabilisés et souvent vite oubliés. Il fallait donc que les artistes chargés de donner une identité sonore, entre gros guillemets, au film, travaillent vite et bien. Ainsi, des gens aussi talentueux que Louis Bacalov, Piero Umiliani ou Ennio Morricone officiaient sur des films aussi divers que des westerns, des films de guerre, des polars, des gialli, etc. De son propre aveu, Morricone ne vit d'ailleurs pas toutes les œuvres sur lesquelles il travailla, loin de là. Ces films, dits « films de genre », toujours entre gros guillemets, devaient plaire au plus grand nombre, au risque parfois d'en devenir bien putassier, mais c'est ce qui fait aussi leur charme. Ainsi, les musiques se devaient d'être entraînantes, pas absconses pour un sou, jouissives, entêtantes. Elles devaient vous donner envie d'écouter, donc de regarder. Bref, il fallait que ça groove, y compris sur des scènes de violence. L'extrait du morceau que vous venez d'entendre s'appelle « Luna di Piena Agosto » et est tiré de la bande originale du film « Cinque bambole per la Luna d'Agosto » ou « L'île de l'épouvante » réalisé en 1971 par Mario Bava, donc la même année que Dirty Harry. Ce film est ce que l'on appelle un « giallo », nom venant de l'italien « giallo » qui signifie « jaune » et renvoie aux couvertures des romans policiers bon marché, des romans de gare, dirons-nous, narrant de sombres histoires pleines de violence, de sexe, et de violence et de sexe. Et oui, comme disait Elvira, tant qu'il y a du sexe et de la violence, c'est tout public. Mario Bava, sans qui, rappelons-le, Alien n'existerait pas, Brian De Palma ne ferait peut-être que des films en noir et blanc, et Barbara Steele ne serait peut-être pas aussi sulfureusement érotique, j'ai bien dit peut-être, Mario Bava donc a inventé le genre cinématographique du giallo avec un film de 1956, La ragazza che sapeva troppo, c'est-à-dire La fille qui en savait trop. Il l'a transcendé l'année suivante avec Sei donne per l'assassino, Six femmes pour l'assassin en français. Dans son sillage, des dizaines et des dizaines de films du même acabit ont été réalisés, pour le pire et pour le meilleur, mais souvent pour le pire quand même. Le point commun qu'avaient les dignes représentants de ce genre était une esthétique du meurtre, une esthétisation du meurtre même. Peu importe le but, les raisons des meurtres qui se succédaient dans ces films, il fallait que cela soit graphique. Les faiseurs de slasher s'en souviendraient à peu près 20 ans plus tard. Cela est très net dans Six femmes pour l'assassin ou dans, par exemple, La queue du scorpion de Sergio Martino, toujours en 1971, où la révélation de l'identité du tueur passe à la trappe dans l'esprit du spectateur. Tandis que le spectateur se demande plutôt comment va mourir la prochaine victime et qu'il se délecte de son agonie bien au chaud dans son fauteuil de cinéma rouge sang. Et ces meurtres étaient la plupart du temps accompagnés de musique, de thèmes bien groovy à tendance « Fais-moi chalouper du bassin » qui rendaient encore plus obscène le plaisir délicat pris au visionnage de ces scènes macabres. Rien à voir avec les grandes envolées lyriques d'un Seven ou d'un Hannibal, aseptisées et plates face aux compositions des 60s comme les leçons du CD face à celui du vinyle. Comme le disait à nouveau, je cite, Eddie Mitchell à Sabine Azéma dans « Le bonheur et dans le pré », putain, on est là pour prendre du plaisir. Et pour que nos sens puissent pleinement jouir de ces moments, le plaisir des yeux s'accordait à celui des oreilles, les compositions aux puissantes lignes de basse, à la batterie souvent funky, accompagnaient admirablement des scènes qui autrement auraient été difficilement soutenables. Pour ne parler que du thème écouté en début de chronique, la semaine dernière donc, celui tiré de Dirty Harry, il convient d'en retenir que la batterie, doublée de quelques percussions bienvenues, et la basse donne ce côté funky et décalé. Basse, batterie, c'est la base. Et finalement, c'est groovy. C'est le cas dans la plupart des musiques de Gialli ou des films d'horreur transalpins ou des Poliziotteschi, donc les polars italiens ultra-violents et souvent politiquement orientés plutôt à la droite de Harry Callahan qui firent florès en Italie durant les années 70, les années de plomb, dites de plomb. C'est ainsi le cas dans le Giallo Profondo Rosso, c'est-à-dire les frissons de l'angoisse en français, mais donc les titres français sont vraiment très cons, bref. Dont le thème principal, composé par les Goblins, emmené par Claudio Simonetti, est pompé sur Tubular Bells de Michael Field. Et ce thème parvient à faire groover la musique du film le moins groovy de l'univers, L'Exorciste. Merci la basse. Voilà, je n'ai abordé qu'une petite partie, un millième, un milliardième, je ne sais pas, du sujet, mais puisqu'il est ici et maintenant question de groove, je dirais pour conclure que dans bon nombre de ces films de genre, dont de plus ou moins inspirés cinéastes actuels se réclament, le groove complète, rehausse, donne du plaisir au spectateur en même temps qu'il lui donne des remords, car il prend du plaisir au sordide. Une sorte de plaisir coupable, donc, comme pour les pornos. À bientôt.
Merci Romain, et bien l'émission va se terminer, mais j'ai deux petits conseils à donner. D'ailleurs, je fais un peu un lien, puisque d'une certaine manière, je vais parler de Dario Argento. Voilà, donc toujours à l'affiche de d'Utopia, hein. Vortex, c'est à mon sens le plus grand film de Gaspard Noé. Hein. Enfin, le seul où je dirais que sa virtuosité ne tourne pas à vide. Hein. Pour la première fois, il filme des personnages de chair et de sang, donc Dario Argento et Françoise Lebrun, hein, qui sont magnifiques et qui appartiennent à deux univers cinématographiques différents, hein, donc le cinéaste Argento, hein, réalisateur de Gialli, et puis Françoise Lebrun, qui vient d'un univers plus de films d'auteur, du cinéma de Stache. Alors ce portrait d'un couple en fin de vie dépasse, à mon avis, de très loin le amour de Haneke, hein, par son humanité débordante et puis ses audaces formelles, jamais gratuites, notamment l'utilisation du split screen qui se justifie complètement dans sa dernière demi-heure. Voilà, après l'effroyable climax, hein, et ses phrases pourries un peu à la Godard, à la sous-Godard, genre « le temps détruit tout » ou « vivre est une impossibilité collective », faut quand même le sortir, ça, des trucs pareils. Noé, le sale gosse devient adulte. D'habitude, les sales gosses qui deviennent adultes, c'est un peu pénible, genre Tim Burton, mais là, finalement, c'est bénéfique pour lui. Et puis enfin, je voudrais vous parler d'un film fauché, très fauché. Si vous pouvez y aller, ça s'appelle « Sans déconner » d'Alexandre Moisesco, et, qui est un auteur de théâtre passé au long métrage, tourné donc sans argent, mais avec un désir de sortir des sentiers battus. « Sans déconner » réalisé avec la compagnie Gérard Gérard. C'est un road movie farfelu, drôle et décalé, dans la veine d'un peu de Carven et d'Elépine, prouvant que le cinéma fauché a encore beaux jours devant lui et peut engendrer de bonnes surprises. Alors, le film est diffusé à l'IUT de Béziers pour le projet Aubrac Express, un très vaste projet sur la ligne SNCF Béziers-Neussargues qu'Alexandre Moisesco est chargé de valoriser jusqu'en 2026 avec la création d'une appli mobile artistique, la création d'un spectacle et l'organisation d'événements vivants. Alors, c'est coproduit par Eurecart. La séance est donc gratuite et le film passe donc le mardi 24 mai à 19h. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite donc une bonne semaine et puis à la semaine prochaine.
Merci, c'était une mission fauchée.
À la semaine prochaine.
Bisous. Au revoir.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.